Il est 6h40, passé 30 secondes. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Jacques, vous nous emmenez ce matin découvrir les grandes villes à travers la sociologie urbaine.
Oui, et notamment leurs ambiances particulières. C'est un objet évanescent, mais bien réel pourtant, pour les sciences sociales. Et depuis leur début, c'est-à-dire dès les travaux de Georg Simmel sur l'atmosphère des grandes villes. Merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
Le journal des idées, Jacques Meunier.
La dernière livraison de la revue Communication est consacrée à ce sujet entre écologie de la perception sensorielle, espace vécu et esthétique de la vie ordinaire. Avec une mise au point liminaire qui n'est pas sans conséquence, c'est d'abord en littérature que le mot ambiance se détache de son synonyme atmosphère, trop connoté scientifiquement. Chez Mallarmé, comme chez Villiers de l'Isle-Adam, soulignent Olivier Gaudin et Maxime Le Calvé, l'appropriation littéraire cherche à la fois à conserver la force plastique ou l'influence associée à l'atmosphère et à introduire l'idée de recomposition des qualités affectives, sensorielles et morales d'une situation vécue ou représentée. L'ambiance ne serait rien d'autre que l'atmosphère travaillée, fabriquée par le peintre, le poète ou l'architecte. On songe évidemment aux peintres impressionnistes, mais aussi à tous les écrivains qui se sont employés à restituer l'atmosphère et les ambiances de ce phénomène montant au 19e siècle, l'expansion urbaine. Témoin de l'accroissement phénoménal de Berlin, Georg Simmel écrit dans Les grandes villes et la vie de l'esprit que ce qui caractérise l'existence dans la grande ville, c'est l'intensification de la vie nerveuse qui résulte du changement rapide et ininterrompu des impressions externes et internes. La poussée rapide d'images changeantes ou l'écart frappant entre des objets qu'on englobe d'un même regard ou encore le caractère inattendu d'impressions qui s'imposent et s'opposent. Le sociologue observe la formation chez le citadin d'une sorte d'organe de protection contre l'afflux de sensations et les discordances de son milieu extérieur, la capacité d'abstraction développée par l'intellect ainsi qu'une forme d'indifférence, le caractère blasé, voire le dandysme du flâneur. C'est aussi parce que les grandes villes ont toujours été le siège de l'économie monétaire, rappelle-t-il, ce qui confère aux échanges entre les gens une forme d'objectivité réduite à l'équivalence du chiffre et à la position sociale, en réaction à laquelle l'esprit secrète cette mesure d'autoconservation au prix de la dévaluation de tout le monde objectif. L'autre aspect de l'expansion urbaine lié à ce dernier élément, c'est la mise en scène de la marchandise. Les grands magasins, la publicité, les expositions universelles transforment la grande ville en un gigantesque marché où consommateurs et producteurs ne se côtoient et ne se rencontrent jamais et dont le seul trait commun devient la valeur économique abstraite de ce que les uns peuvent débourser et de ce que les autres peuvent produire. Aujourd'hui, ce caractère spectaculaire est particulièrement développé par un urbanisme marchand que décrit Éric Chauvier dans la revue Communication. C'est le concept de marche lente, version désincarnée de la flânerie. Ce concept est censé optimiser l'acte de consommer en valorisant les potentiels du regard. Le procédé est discret mais omniprésent. Numérisation d'enseignes, design, jeu de lumière, musique douce et agréable. D'où vient alors que l'on se mette à douter de la réalité de cette famille de réfugiés assis sur le trottoir et qui, c'est noté sur un misérable carton, a bravé 1000 dangers pour fuir la guerre et ses horreurs. Et si tout était faux? L'anthropologue de la vie ordinaire rappelle que Walter Benjamin appelait fantasmagorie cet art de fétichiser la marchandise et qu'elle avait substitué à l'expérience active du passant une pure et inerte contemplation, un monde d'ambiance qui vous dispense de croiser les visages des êtres assis sur le trottoir, d'où le désir de casser l'ambiance, de déconstruire la mièvre fantasmagorie d'un monde réconcilié dans la consommation, en poursuivant l'objectif politique de restituer les contextes révélateurs des forces productives en œuvre, casser l'ambiance. Un illustre mais anonyme exilé espagnol dans Paris s'y est trouvé réduit au milieu des années 20 sous la dictature de Primo de Rivera. Miguel de Unamuno raconte la ville lumière dans le clair-obscur de ses trajets quotidiens en métro, ses vomitoires ou canalisations à travers lesquelles se presse une marée épaisse, laissant derrière elle une odeur de fatigue sociale. Nulle part ailleurs, il n'a ressenti, dit-il, aussi profondément ce qu'est et ce que signifie le déracinement. La revue Feuilleton publie les notations des abusés de ce grand personnage esselé qui confie sa fascination pour le chimpanzé solitaire du Jardin des Plantes. Face à lui, l'homme, au lieu de s'élever, rapetisse. Pour restaurer l'ambiance dans le métro, il suffit de fouiller dans les articles de Tom Wolfe, publié par Pocket sous le titre « Où est votre stylo ?». À New York, un dimanche matin, l'écrivain et merveilleux journaliste décrit l'embrassade entortillée sur le quai d'un garçon et d'une fille, totalement pécheresse, à vous casser le dos. Il est 6h46, mais je poursuis quand même. Il enveloppe Nanana non seulement de ses bras, mais aussi de son torse. Elle a la tête levée, suivant un angle de 90 degrés. Il ferme les yeux de toute leur force, tandis que leurs bouches sont occupées à une activité incroyablement intense. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Sans transition.
Il enveloppe Nanana.
Au sommaire des enjeux, les résultats d'élections présidentielles du 20 mai au Venezuela.
C'est ça.